Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel.
Alors les nazis.
Non mais parlons des nazis quoi, ouais, parce que moi j'en peux plus.
Non mais parlons des nazis parce qu'il s'est passé une dingue de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que Donald Trump a fait son retour à la Maison Blanche, c'était lundi dernier. On a retenu de cette cérémonie le discours... Non mais en fait ce qu'on a retenu essentiellement une image, c'est quand même Elon Musk, soutien financier de Donald Trump, membre de son gouvernement, qui a fait à deux reprises un salut nazi à la foule en délire dans un des plus grands pays du monde, voilà.
La première puissance mondiale.
La première puissance mondiale, puissance militaire, économique, est dirigée par un Donald Trump encore plus radical que ce qu'il avait déjà été, parce que je rappelle que c'est un retour à la Maison Blanche après 4 ans de Joe Biden.
Il sait
et
très
vous revoyez
bien ce qu'il
ce
fait,
geste, Elon Musk qui fait un salut nazi.
Il sait très bien ce qu'il fait.
À la tribune, à l'investiture d'un président américain, quoi.
Voilà. Et alors là, moi j'ai évidemment beaucoup regardé les médias, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça passe, et ça n'est pas un sujet, ça n'est pas un débat. C'est-à-dire, on parle de gestes maladroits, alors ça dépend de quelle presse on lit, j'ai lu dans Le Monde un salut d'inspiration probablement fasciste, un truc comme ça, bon bah, oui probablement, oui, d'inspiration fasciste, non, c'est littéralement le salut hitlérien, on a eu Chapoutot hier à M6, qui est... mais ce qui est terrible, c'est qu'on en est à une phase où t'es là, et on te regarde comme si, oh là là, vous voyez des nazis partout. Le mec a déjà dit des trucs antisémites de malade, il a déjà...
Il a réhabilité Hitler il y a 2 semaines.
Il fait des blagues, on voit très bien quelle est son orientation politique et c'est... Voilà, il a déjà fait des blagues nazies, hein, c'est déjà... voilà. Et là, on parle de dog whistle, mais c'est même plus du dog whistle. En fait, il est tellement à l'aise qu'il peut le faire.
Ce que c'est que le dog whistle.
Le dog whistle...
On voit beaucoup sur Internet, mais tout le monde sait.
Oui, c'est le dog whistle, c'est des petits signes que tu ferais juste pour que ceux qui sont de ta commu te reconnaissent, mais sans que les autres te grillent. Donc, par exemple, à un moment, il y avait le signe de hockey en plongée que les nazis faisaient parce que ça fait W et P, White Power. Ça venait des États-Unis déjà, et on avait vu Marine Le Pen le faire sur des photos avec des fans là, et elle avait dit mais non, c'est le signe pour dire que tout va bien quand on fait de la plongée. Voilà. Et c'est tout l'intérêt du dog whistle, c'est que tu peux dire que c'est vous qui êtes fou en fait. Ouais. Et alors, et ce qui est génial, et je termine là-dessus sur le salut nazi parce que j'aimerais bien qu'on avance, mais ce qui est génial, c'est les dénégations, parce que là, bon, tu peux pas dire oui, alors c'est les nazis, ils faisaient ça quand ils faisaient de la plongée, enfin je sais pas, mais là c'est littéralement un salut nazi. Et alors lui, comment il s'est défendu? Et je trouve que la défense, elle est très intéressante. La première, ça a été en disant « c'est un coup tordu de la gauche qui veut encore me repeindre en nazi ». Et la deuxième partie, il a dit « mais traiter tout le monde de fasciste, ça ne marche plus, c'est démodé ». Et alors ça, c'est très intéressant. C'est démodé. On vous a ringardisé. Maintenant, on a gagné. Et si on veut, on peut le faire. Regardez, hop, je le fais. Et vous allez faire quoi? Vous êtes ringards, les antifascistes. Vous êtes ringards. Alors, il y avait déjà ça dans les discours de Trump sur les antifas. Il y a déjà eu une diabolisation des antifas sous Trump avant. Mais en effet, l'antifascisme est ringard. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, quand c'est la première puissance du monde qui trouve que c'est ringard et qu'elle a une industrie culturelle et surtout, on va en reparler, elle a les réseaux sociaux. Là, maintenant, elle va pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire en ligne pour les prochaines années à venir. Et ça va avoir un impact sur nous tous.
Et ça a eu d'ailleurs un impact direct sur Meta, Facebook, avec Mark Zuckerberg qui a fait un virage à 180 degrés sur la politique de modération de sa plateforme. Voilà, il a supprimé un certain nombre de choses, il a autorisé des propos homophobes, transphobes comme jamais. Climarx, comment tu l'as vécu, toi, ce retour au pouvoir de Donald Trump, et qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion?
Mal, hein, vraiment super mal. Ça m'a mise extrêmement mal et je le suis toujours. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Usul, sur le salut nazi, franchement, c'est fou à quel point les grands médias ont traité la gauche, je sais pas, Rima Hassan, Jérémy Corbyn, d'antisémite, limite de nazi, tout de suite. Et que là, on a Elon Musk qui est littéralement un suprémaciste blanc, qui fait un salut nazi, on est en train d'être là, oui, mais vraiment, est-ce que c'est la bonne inclinaison de la main? Est-ce que c'est la bonne inclinaison du bras? Mais en fait, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est très clair qu'il est d'extrême droite, il n'y a pas de discussion. C'est fou qu'on soit bloqué à discuter est-ce qu'Elon Musk avait un salut nazi, alors que, je veux dire, il est très clairement d'extrême droite, c'est complètement assumé. et que pour autant, ça pose aucun problème aux gens de sauter sur le fait que tous les gens de gauche sont de terribles antisémites. Enfin, c'est délirant, quoi. Délirant.
Je suis d'accord avec toi, c'est assez impressionnant. Ça me bute, moi, qu'on soit obligé d'aller chercher un historien comme Johan Chapoutot pour lui demander de dire...
Il les archives
monsieur l'historien, c'est quoi un salut nazi? Est-ce que c'est vraiment un salut nazi?
Est-ce que salut nazi est vraiment nazi?
Est-ce que vous n'êtes pas un peu extrémiste,
monsieur l'historien? Oui, c'est nazi, d'accord, merci.
Mais vous, en même temps, vous étudiez ça toute la journée.
Oui, voilà, vous avez bien regardé des images.
Et la réponse de l'extrême droite sur les réseaux à cet extrait avec Chapoutot, ça a été de dire « Oui, bah lui, il n'est pas neutre, c'est un gauchiste, machin, etc. »
Vu chez LFI.
Hein?
On l'a vu chez LFI.
On l'a vu chez LFI.
Il est anti-extrême droite, du coup, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance?
Et voilà. Et tous.
N'aime pas les nazis, monsieur. Non, mais est-ce qu'il est bien neutre?
Ça accompagne d'un discours anti-intellectuel.
C'est un truc sur lequel toi, tu as l'air depuis longtemps. C'est la vitesse de cette glissade vers la droite, où tu te rends compte qu'il y a 2-3 ans, la question de savoir si Baxit accueillait l'extrême droite ou pas et tout était une question. Et aujourd'hui, on en est au moment du salut nazi.
Enfin,
littéral. Je sais pas si on m'avait dit à l'époque que ça irait aussi vite. D'ailleurs, tu me l'avais dit.
Moi, j'ai toujours dit que ça va vite.
Attention, ça va vite.
Wow, ça va aller encore plus vite là.
Donc on en est au moment du salut nazi par un membre du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je précise parce que le salut nazi d'Elon Musk a quand même occupé beaucoup de place dans la discussion, y compris dans la nôtre aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi les décisions qui ont été prises par Donald Trump pendant ce temps-là. Dès les premiers jours, dès les premières heures de sa présidence, Donald Trump a pris un certain nombre de ce qu'on appelle les executive orders, qui sont des espèces de lois, de décrets-lois, de choses comme ça. Bref, des trucs qui vont entrer en vigueur. La grâce présidentielle a été accordée à tous les putschistes qui avaient tenté de prendre d'assaut le Parlement.
Comme l'avait fait Hitler, une fois au pouvoir, il a libéré tous les nazis qui étaient en prison, notamment ceux qui avaient participé à un putsch avant.
À l'incendie du Reichstag,
voilà, normal.
Putsch, effectivement. Il a gelé les embauches dans les administrations fédérales. Ça, c'est un discours assez classique, limitatif, libéral américain. Il a rétabli TikTok. Il a détricoté les mesures de protection environnementale. Il a déclaré une urgence nationale à la frontière sud des États-Unis, à la frontière avec le Mexique. Il a révoqué le droit du sol et il est sorti des accords de Paris.
Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs?
Ce n'est qu'une petite sélection que je vous donne. Il est aussi sorti de l'OMS d'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, petite sélection des premières décisions prises par Donald Trump qui nécessitent encore d'être validées par le Congrès, etc. Je rappelle quand même un truc important. Un peu comme en France, hein, vous savez, c'est important d'avoir une assise parlementaire pour pouvoir diriger et prendre des décisions. Donald Trump a une assise parlementaire, beaucoup plus que ce qu'il avait dans son premier quinquennat. Il a actuellement le Sénat, il a actuellement le Congrès et il a encore mieux, il a la Cour suprême dont il a nommé deux membres et dont il va encore en nommer. Donc voilà, Donald Trump n'est pas impuissant et jusqu'à maintenant, en tout cas, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Émilien ?
Oui, c'est assez édifiant. Il y a des calculs, des graphiques qui ont été faits. Il a signé en fait un nombre d'ordres aussi important en 24 heures que ses prédécesseurs en 100 jours. Et il y est allé dans tous les sens, jusqu'à y compris en fait mettre en congé provisoire tous les gens chargés de ce qu'on appelle les DI, c'est-à-dire Diversity, Equality, Inclusion dans les administrations américaines, donc tout ce qui est chargé en gros de diversité et d'égalité. Maintenant, même le site internet d'info sur l'avortement qu'a mis en place Biden était shut down en quelques heures. Donc vraiment, il avait tout prêt.
Ouais.
Son fameux projet 2025,
la Heritage Foundation,
dont il jurait que c'était pas du tout sur place. Apparemment, il était très bien préparé parce que tout a été fait de manière tout à fait éclair. Alors, effectivement, il faudra vérifier. Est-ce que le droit du sol, qui est quand même inscrit dans le 14e amendement, je crois, américain, dans la Constitution, va être vraiment dissous ou pas? C'est compliqué, mais en tout cas, une idée très claire de ce qu'il veut faire. Et en même temps, il y a toute cette... Alors, je ne sais pas si Musk a calculé le côté de diversion de son geste, mais il y a tout plein de propos de ses soutiens ou de lui-même qui, en fait, font un peu diversion, qui sont sérieux aussi. J'ai tous ces trucs sur le Danemark, le Groenland, le Canada, le Panama, etc. C'est sérieux. Et en même temps, on parle de ça plutôt que un démantèlement de l'État américain, de la protection, diminution des remboursements de médicaments, enfin, tout ce qui protégeait un petit peu les gens, l'environnement, etc., est en train de disparaître. Ils l'ont calculé. Cette fois-ci, ils se sont dit, on s'est fait niquer une fois par l'expression, on n'a pas grand en 2020, on revient, tout est prêt. Et là, littéralement, se poser la question que disait un peu Usul, c'est, nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les Américains sont dans la merde. Il y aura les soutenir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça?
Alors, interrogé sur le sujet au Parlement en France, le ministre dont j'ai oublié le nom, qui représente la Barreau. Diplomatie française. Non, Barreau n'était pas là, c'était son collègue chargé de la francophonie, qui est maoré, le ministre dont j'ai oublié le nom, pardon. Donc, qui donnait la position de la France sur le sujet Trump, évidemment, tout en diplomatie, comme d'habitude, avec des mots très choisis. Et il rappelait que les États-Unis sont un des alliés les plus anciens de la France. C'est un pays ami, etc. Et je voyais bien dans le chat que ça ricanait un peu sur cette seule évocation d'un truc qui a été vrai pendant peut-être 2 siècles, mais peut-être que c'est le début de la fin de cette amitié. Usul, est-ce qu'on est à un moment de bascule?
Alors justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce que disait Emilien juste avant, c'est-à-dire regardons très concrètement là cette avalanche de décrets qui vont avoir des implications considérables. Hein. Par exemple, quand on parle d'utiliser l'armée pour faire des rafles, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'arriver, de prendre une ville, on envoie l'armée et on rafle des gens pendant qu'ils sont en train de travailler, pendant qu'ils sont à l'école. Ça, une rafle entière et déportation. Rafler, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, rafler déportation. Il y a déjà des villes qui ont dit, mais notre police n'y participera pas, Chicago, par exemple. Il y a des institutions qui vont essayer de résister. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est une révolution. C'est une révolution. Il y a des choses qui sont contre notamment la révocation du droit du sol ou quelques autres choses qui sont complètement contre la constitution américaine. On sait que les Américains connaissent leur constitution, sacralisent un petit peu leur constitution. Là, il y a plein de trucs qui les piétinent dedans. Donc, et qui vont piétiner d'autres institutions américaines. Et donc, c'est une révolution. Il faut la prendre pour ce qu'elle est. Il y a un changement profond aux États-Unis. La dernière fois, ils avaient un peu les mains liées et il y avait des contre-pouvoirs qui marchaient encore un petit peu. Et il y avait même des médias, Et ça, c'est mon deuxième point.
Il y avait des marches aussi de société civile, des féministes, voilà. Des anti-guerres, etc.
Voilà, mais alors maintenant, Trump a quand même promis la prison à beaucoup de gens. Ouais. Il a promis la prison à des journalistes, il a promis la prison aux militants, les antifas, les féministes, je sais pas quoi. Ça peut être une révolution fasciste, assez classique, en somme. Hein, et c'est pas la première fois qu'une révolution fasciste arrive par les urnes. C'est déjà arrivé.
D'ailleurs, Joe Biden a gracié préventivement un certain nombre de personnes pour essayer de les protéger.
Oui. Enfin,
Bref.
Donc, mais tout ça, c'est son programme. Hein. Et quand il veut détruire l'État, il veut en effet détruire. Mais comme l'avait fait, je lisais des trucs, j'avais envie d'appeler Chapoutot et lui dire putain, il fait comme dans ton livre, c'est le manuel, quoi. C'est-à-dire détruire des trucs d'État pour faire des agences qui sont en concurrence. C'est quoi ce DOGE, la Department of Government Efficiency? C'est un machin, c'est un comité Théodule, dirait-on en France. Mais c'est un machin qui va être en concurrence avec d'autres trucs. Quels sont ses pouvoirs? Ça n'existe pas dans la Constitution, le DOGE. Donc on désorganise, on pète tout. Il est en train de péter les institutions américaines à dessein pour mener une politique dont on sait quelle politique c'est. On sait la Heritage Foundation, le Claremont Institute, c'est-à-dire des politiques qui ont été élaborées et émanation directe du capital américain qui s'est transformé et qui a pris le pouvoir. Alors c'est pas comme s'il l'avait déjà pas avant, hein, mais là on a une petite clique en particulier qui a des besoins. Alors étonnamment, tiens, ils ont besoin du canal de Panama, ils ont besoin du Groenland, ils ont besoin de... Donc on va y aller.
On va en parler.
Et l'État est non seulement... Et mon dernier point, et après j'arrête. Les États-Unis sont en train d'inventer un nouveau mode de gouvernementabilité aussi des masses. Le fascisme, c'est un rapport aux masses aussi. Alors, ça, il y avait la propagande et les machins. Là, c'est un nouveau mode, c'est une espèce d'ingénierie sociale nouvelle, à base d'algorithmes, à base de systèmes Internet. Enfin, Internet permet aujourd'hui de contrôler le débat public autrement, de contrôler aussi la presse, ce qui se dit dans la presse via les réseaux de Twitter. Vous voyez comme les journalistes sont captifs de Twitter, etc. Vous voyez comme les journalistes sont captifs de Google. Ils font des articles exprès dans les sites de presse, vous savez, juste pour être en haut de l'algo. Donc ça veut dire que celui qui a la main sur l'algo, il a la main sur l'ingénierie de l'opinion publique. Et donc, qu'est-ce que... Là, tout le monde a baissé le genou devant Trump, même ceux qui avaient résisté un temps. Ils avaient résisté un temps, après l'assaut du Capitole, les Zuckerberg et autres avaient modéré, avaient dit c'est pas possible, les fake news, le complotisme, il y avait failli y avoir quand même un premier coup d'État. Donc ils avaient pris la chose au sérieux et ils avaient modéré. Là ça y est, ils ont dit très bien, on modère plus. Donc comment ils vont bidouiller leurs algorithmes? eh bien, pour créer une, voilà, c'est une nouvelle forme de, c'est pour ça que c'est un nouveau régime. C'est vraiment, faut le penser comme un nouveau régime.
Qui Marx?
Ouais, je suis d'accord qu'on est en train de basculer dans quelque chose de vraiment nouveau et très grave et voilà, mais je voudrais juste, parce que moi, il y a quelque chose qui m'énerve un peu, c'est que j'ai l'impression que là, avec cette deuxième élection de Trump, on se met à tout le monde panique sur ce truc de ah là là, les États-Unis quittent, sont plus les leaders du monde libre, de la grande démocratie, etc. Mais enfin, je sais pas, il faut quand même qu'on se souvienne un peu. Ce serait peut-être l'occasion, là, cette deuxième victoire de Trump, de se souvenir que les États-Unis, c'est un pays qui s'est créé sur un génocide, le génocide amérindien, que les leaders du monde libre, je sais pas, c'est qui, c'est Nixon, Kissinger, Reagan, Bush, enfin. C'est quand même un petit peu aussi, enfin, faut aller dire aux Iraniens, aux Chiliens, tous les pays, aux Congolais, que les Américains c'est les leaders du monde libre et que là, juste maintenant, ils se mettent à vouloir arrêter d'être des grands démocrates. Bon, bah voilà, enfin, c'est peut-être encore une fois, sans minimiser l'énorme changement et l'impact que l'élection de Donald Trump va avoir. Il faut aussi regarder les choses en face, quoi. Ça sort pas de nulle part, pas du tout. Et c'est voilà.
Les États-Unis sont une grande nation de racisme. Été, c'était un des éléments.
Parce que ça, c'est
par exemple,
la suprématie blanche, oui.
Bien sûr, oui. Et c'était un des, d'ailleurs, c'était un des arguments de l'URSS à l'époque, qui disait, regardez, votre monde libre, là, c'est la ségrégation jusque dans les années 60, c'est les polices racistes.
Le mouvement des droits civiques, c'est aussi des évolutions sociétales.
C'est le Ku Klux Klan.
Oui, c'est 68, la toute fin de la ségrégation, c'est 1968.
C'est 68, c'est très très tard. Après, c'est aussi des mouvements féministes et tout, on n'a pas beaucoup de leçons à leur donner, nous non plus, hein. En termes de démocratie, de féminisme, de racisme, etc.
De toute évidence, mais bon, quand même.
Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais je vois très très bien ce que tu veux dire.
C'est une démocratie de commerçants et de marchands d'esclaves, et d'exploitants. C'est une démocratie qui a toujours été une démocratie de commerçants et d'égaux entre eux.
Tu parlais tout à l'heure, c'est extrêmement important, effectivement, les réseaux sociaux, hein, effectivement. On a vu, donc ça y est, X est passé du côté du camp de Donald Trump. Mark Zuckerberg, Meta, Facebook, Instagram sont passés du côté de Trump. Nous ici, on est sur Twitch.
On
est chez Jeff Bezos. On est sur Amazon. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a un truc que j'ai toujours noté chez Twitch. Ça fait 10 ans que j'y suis, même si je travaille pas pour Twitch, mais ça fait 10 ans que j'y suis. C'est que Twitch a toujours eu une politique extrêmement progressiste en matière d'ouverture aux minorités.
Ça va être fini, ça. Ça va être fini.
Je ne sais pas. C'est-à-dire que justement, pour moi, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que je pense que ça va être un indicateur.
Si et Jeff Bezos a déjà donné des signes. Hein. Ça y est, le Washington Post, par exemple, dont il est propriétaire, il a refusé que le Washington Post prenne position pour Kamala Harris, alors qu'aux États-Unis, la presse est vraiment vue comme un quatrième pouvoir. C'est-à-dire qu'il est très courant que les grands titres de la presse US affirment leur position lors d'une élection présidentielle, notamment. Il a dit non cette fois-ci, donc avant les résultats de l'élection. Et ensuite, il a interdit une caricature dans son truc qui était une caricature anti-Trump. Et donc il y a eu des démissions, il y a eu des désabonnements en masse.
Donc c'est le début, ça y est.
Et c'est le début. En tout cas, c'est ce qu'il a fait au Washington Post. On attend de voir ce qu'il va faire.
On verra.
Pourquoi est-ce que Zuckerberg et Musk, pourquoi est-ce que Jeff Bezos, c'est ce que vraiment on met nos espoirs.
Il va s'aligner, il était au Capitole.
C'est des questions d'intérêts aussi économiques. Jeff Bezos, il a des intérêts en Chine, etc. J'en sais rien, parce qu'on verra bien. Honnêtement, on verra bien. Et oui, il était avec d'autres grands patrons au Capitole, avec Bernard Arnault aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de grands patrons. Sujet intéressant, il y a aussi cette question quand même, parce que Donald Trump, dans les dernières semaines avant son investiture, a aussi eu des mots extrêmement violents en termes de revendications territoriales. Et il a parlé d'aller carrément choper des territoires appartenant pourtant à des pays alliés. On parle du Groenland. On parle du Canada quand même. Est-ce que c'était une blague? Est-ce que c'était une demi-blague? Est-ce que c'est véritablement une volonté? Comment est-ce que ça réagit en Europe, Émilien?
Ça réagit donc avec, pour les plus prudents, une forme de rappel que les États-Unis sont nos alliés, etc. Mais que bon, évidemment, on ne va quand même pas laisser faire ça, etc. Les plus concernés, notamment au Groenland, les Danois, ont dit carrément... Se faire foutre, parfois comme ça, ou des personnes comme Donald Tusk, le premier ministre polonais, a affirmé une forme de volonté de résistance. La question, c'est est-ce que ça va aller quelque part? Parce que, comme c'était mentionné, la dépendance, ne serait-ce que stratégique, militaire aux États-Unis, est énorme. Mmh. Ça fait des décennies qu'il est question de défense européenne et pas seulement de l'OTAN. Les choses sont à l'état toujours très embryonnaire. Et l'idée qu'on doive se défendre tout seul commence à parfois prendre un peu de plomb dans l'aile. Par exemple, la dépendance de l'État français à Starlink pour établir une connexion Internet à Mayotte est quand même assez folle, quelque part. Et le discours qu'on entend ces temps-ci est quand même assez dingue de dire, notamment de la part du gouvernement, dire « Oui, d'accord, régulé, mais enfin, il serait quand même mieux qu'on ait un Musk européen. » Quand on voit ce qu'est Musk, on n'a pas envie d'avoir le même chez nous.
Non, ça ira, merci. Même...
Donc en fait, oui, non, innovons plus. Non, à un moment donné, il est question de régulation. Il est mention, par exemple, de levée de régulation sur Twitch, qu'on puisse dire, ou sur TikTok, qu'on puisse dire des termes interdits par la loi. Bon, à un moment donné, il y a un règlement européen. Est-ce que le règlement européen va, à un moment donné, interdire cela? Y compris jusqu'à bloquer des réseaux. Et à un moment donné, il y a un rapport de force qui va se créer. Et s'il y a pas si les dirigeants européens ne l'assument pas...
On va avoir besoin de Glucksmann, là, pour le rapport de force. Là.
Voilà. Bah, il n'empêche que dans son cap clair, bon, bah, il faut qu'ils aient un cap clair.
Oui.
Et si on n'en a pas, bah, je crains qu'on en ait... Quel sera le sursaut, quoi? Si ce n'est pas maintenant, ce sera quoi la prochaine ligne rouge qu'on laissera franchir?
Et l'opportunité, c'est quoi? Enfin, il y a quand même une opportunité derrière, qui est quand on a dû faire de l'espace, quand on a dû faire de l'aéronaval, de l'aérospatial, je sais pas quoi, les Airbus, les machins, c'est des coopérations européennes. Il va falloir qu'on réapprenne à faire des coopérations européennes d'une manière ou d'une autre. Et là où on est dans la merde, c'est par contre tout ce qui est réseaux sociaux et machin là, et même infrastructure. C'est-à-dire on a foutu Microsoft dans les écoles, hein, donc. Qu'est-ce qu'on a à proposer derrière? La Chine, ils ont dit, pas de ça chez nous, on fait nos propres trucs. Et nous, on a dit, bon, on met les trucs américains, mais on va réglementer un peu. Et ben là, il va peut-être falloir reprendre le truc à la base, et non pas attendre un Musk européen. Mmh. On veut pas que Bernard Arnault se mette à faire ça, parce que Bernard Arnault... en fait, c'est ça la leçon.
Tout dépendra d'un patron.
Les milliardaires de bonne intention, là, comme Bezos et compagnie, qui font un peu d'inclusion et de machin, on a bien vu qu'au premier coup de vent, au moment où leurs intérêts sont menacés, hop, ils virent fasciste. Mais comme ils ont toujours fait. C'est pour ça que je suis anticapitaliste, c'est pour ça que je suis communiste. C'est que pour moi, les capitalistes, ils voient leur intérêt et puis ils n'ont pas peur du fascisme parce que c'est un mode justement de gestion des masses.
Oui.
Et quand ils ont des problèmes avec la gauche, qu'est-ce qui gère bien les masses? C'est le fascisme.
Oui.
Donc voilà. Donc,
non, mais oui, non, vas-y, finis.
Non, bah, juste pour dire, faut qu'en Europe, on réapprenne à faire des choses du service public, notamment, des coopérations et des choses socialisées. Il va falloir qu'on socialise. Il faut l'Union européenne, soviétique, des républiques soviétiques européennes, mais bien entendu, vous l'aurez entendu ici en premier.
Non mais attends, juste pour ce truc-là, je le rappelle, j'ai l'impression que tout le monde leur dit tout le temps, mais il faut encore le rappeler, le néolibéralisme, c'est né dans la dictature. Enfin vraiment, je veux dire, il y a pas de secret, c'était pas caché, je veux dire, les théoriciens du néolibéralisme, sont pas des démocrates, je veux dire, littéralement, c'était, on va mettre genre Pinochet, il va genre tuer tout le monde, et genre après on va être là, c'est super, ça marche super bien, enfin il y a aucun doute, il y a jamais eu même aucune subtilité sur le fait que le capitalisme, il préfère les dictatures aux démocraties, voilà, quand il s'agit de défendre le capital. On va vers la dictature, il y a pas de doute, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Voilà.
Le sujet que tu as abordé, Usul, est un sujet qui est bien en tête d'un certain nombre de responsables politiques européens. Cette question de l'autonomie européenne. La capacité de l'Europe à agir par elle-même, la capacité à faire face aux crises, etc. C'est un processus qui est assez ancien. Ça avait commencé avec la crise de 2008, notamment, où il y avait quand même un début de réflexion sur l'autonomie, notamment financière en Europe, et notamment des règles spécifiques au secteur bancaire en Europe. Ça a accéléré considérablement avec 2020, le Covid, avec le plan de relance, avec l'endettement commun. On ne se rend pas compte, mais l'Europe a fait quand même un bond en avant en matière d'intégration à ce moment-là, parce qu'il fallait bien faire face. Et là, sur ce que tu as abordé, en fait, le retour de Trump au pouvoir, ça avait été aussi anticipé avec le rapport Draghi, par exemple, qui appelle à un investissement public massif européen.
Et à des transferts.
Dans toutes les infrastructures et à des transferts importants.
Oui.
Les questions de défense, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'OTAN, mais enfin, ça fait aussi partie de la discussion, la question de la guerre en Ukraine. Donc, le besoin qu'a l'Europe de se défendre elle-même sans avoir besoin du grand frère américain, ça nécessite des investissements massifs sur des décennies. Donc, enfin, c'est bon. On est peut-être effectivement en train de se séparer petit à petit des États-Unis par nécessité et peut-être que l'Europe est en train de se déterminer
à moins qu'Elon Musk parvienne à faire réussir son plan méga.
Son plan méga en Europe, effectivement.
Make Europe great again. C'est-à-dire, là, ces entreprises de déstabilisation qu'il a commencé en Angleterre, en Allemagne. S'il y a des pro-Trump et des pro-Musk en Europe, on va continuer à, on va rentrer dans leur roue, en fait. Ça va avec le, on prend avec le fascisme, par contre. Ça va aller avec le fascisme.
Ouais, ouais. Et on a vu la semaine dernière, ça fait marrer sur le moment, mais on a vu, Éric Ciotti débarquer en conférence de presse avec une tronçonneuse pour mimer Javier Milei, l'Argentin, très, très proche de l'idée de Donald Trump et d'Elon Musk, donc vous avez cette photo d'Éric Ciotti, ancien patron d'un parti gaulliste Les Républicains, désormais patron d'un parti UDR, qui est avec une tronçonneuse, en l'occurrence une tronçonneuse électrique bas de gamme, je vous le dis, j'ai vérifié. Mais voilà, tu vois, on en rigole, mais en fait, voilà.
Trump, et ça se dit gaulliste.
Ça se dit gaulliste. Trump aux États-Unis, on a ce genre de clownerie en France, mais qui en fait va peut-être pas devenir une clownerie, quoi. Tu voulais prendre la parole, Émilien, excuse-moi.
Oui, c'est sur cette question-là de cet international. Alors, ouais. Collègue qui parle d'international intellectuel réactionnaire pour parler de ces alliances qui se créent. Alors, l'avantage, quelque part en France, c'est que comme les Trumpistes misent toujours sur le plus conservateur en matière de société et le plus libéral, ça tombe pas sur le bon cheval en France. C'est-à-dire qu'ils sont tombés sur soit Zemmour, soit Ciotti. Qui sont quand même pas les mieux partis actuellement.
Non, c'est vrai.
Ils soutiennent pas. Enfin, ils sont timorés vis-à-vis de Marine Le Pen, qui doit, je suppose, pour être un genre de communiste en culotte courte. Mais il n'empêche que, alors évidemment, il faudra se garder de dire que tout est la faute d'eux, parce que, je veux dire, l'AFD en Allemagne, le Vlaams Belang en Belgique, Georges et Mélanie n'ont pas attendu Elon Musk pour faire des bons scores, mais c'est sûr que. C'est quand même un accélérateur important. La question des plateformes, évidemment, sera importante. On a vu, ces derniers jours, les algorithmes d'Instagram ou de TikTok mettre des genres de censure ou de censure non affichée, où il y a certains termes, les républicains, ça passe. Par contre, si on commence à chercher génocide ou démocratie.
Oui, oui, c'est le hashtag démocrate qui a été.
Voilà, c'est ça. Et si jamais, sur Instagram ou sur TikTok, le hashtag Parti démocrate en Italie est bloqué, ou si le hashtag LFI ou PS, je ne sais pas, c'est quand même bizarre, mais le PS est bloqué. Enfin, qu'est-ce qu'on fera ? Et à un moment donné, ils n'ont pas tout pouvoir, les électeurs ne décident pas qu'en fonction de ça, y compris les électeurs de Trump là-bas, mais c'est une force qui va arriver. Et est-ce que les gens sont, y compris, prêts à défendre démocratiquement, selon une vraie démocratie qui doit se défendre, là. Les mots sont à assumer.
En ce qui nous concerne, on continuera à se battre pour la démocratie sur le plateau de Backseat et partout ailleurs où on pourra
sur Twitch.
Le faire. Sur Twitch et ailleurs.
Sur Twitch et sur Twitter.
Et sur Twitter, etc.